Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes yeux sont toujours sur le Seigneur. C'est lui qui dégage mes pieds des pièges qui me sont tendus. Nous avons dans cette phrase de l'introïte un résumé du combat spirituel que nous devons mener pendant ce carême. Pour restaurer en nous l'harmonie originelle perdue par le péché. La préface du carême nous dit que le jeûne du corps est un moyen privilégié pour combattre les vices et élever nos âmes vers Dieu. Parmi les vices, ceux de la chair sont les plus difficiles à combattre. Saint Paul, dans l'épître que nous venons d'entendre, nous le rappelle. Il rappelle la nécessité d'éradiquer ce vice de l'impureté sous peine d'être exclu du royaume des cieux. Pour y parvenir, il faut fixer sans cesse nos yeux sur le Seigneur. La Vierge Marie, dont nous fêtons l'Annonciation demain, a réalisé cela à la perfection dès sa conception. Elle est pour nous le modèle de toutes les vertus, dont une est particulièrement efficace, alliée au jeûne, pour combattre la concupiscence de la chair, l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité ? Le mot d'humilité nous fait tout de suite penser au publicain de l'Évangile qui, se reconnaissant pécheur, ose à peine lever les yeux vers le ciel, se frappe la poitrine et s'en retourne chez lui, justifié, c'est-à-dire en état de grâce. La Vierge Marie, étant immaculée, n'avait aucun motif du côté du péché de s'humilier. Alors, comment pouvait-elle s'humilier ? Pour répondre à cette question, voyons tout d'abord ce qu'est l'humilité. Saint Thomas nous dit que c'est une vertu morale qui nous incline par révérence envers Dieu à nous abaisser et à nous tenir à la place que nous voyons nous être due. On voit dans cette définition que l'humilité s'appuie sur la vérité de ce que nous sommes par rapport à Dieu. Or, nous sommes des créatures. Nous dépendons de Dieu pour tout, tant au point de vue naturel, intelligence, savoir-faire, beauté, santé, etc. Tout cela sont de purs dons de Dieu. Tant du point de vue des biens surnaturels, les biens de la grâce. La créature qui considère en vérité ce qu'elle est devant Dieu, c'est-à-dire un pur néant, et d'autre part les perfections infinies de Dieu, ne peut que s'abîmer dans une profonde révérence intérieur et extérieur devant la majesté divine. Toutes les créatures exemptes de péché, les anges, les saints du ciel, ont cette humilité. Et cette humilité est d'autant plus grande que ces créatures connaissent mieux la grandeur de Dieu. Et la Sainte Vierge Marie, étant la reine du ciel, elle a eu la plus grande humilité parmi les créatures. Marie est donc un modèle d'humilité. Deux épisodes de sa vie nous révèlent, par ses paroles et son attitude, qui sont des actes d'humilité extérieure, quelle pouvait être son humilité intérieure. Le premier épisode, il s'agit du dialogue de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Le deuxième, le dialogue avec Sainte Élisabeth à la Visitation. À l'Annonciation, l'ange Gabriel commence par la saluer d'une manière extraordinaire. « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Aucune intervention angélique dans l'Ancien Testament n'a revêtu un caractère si éminent. Tout autre que Marie aurait été flattée d'être saluée de la sorte. un archange qui vous fait de tels éloges. Pourtant, l'archange ne la flatte pas, il dit ce qui est. Marie, de par son immaculée conception, a toujours été unie à Dieu, de tout son être. Elle est remplie de grâce dès sa conception. Et donc, elle est unique parmi toutes les filles d'Ève. Marie n'est pas étonnée du contenu de ces paroles, mais il est étonné de la salutation. Pourquoi est-ce qu'il vient lui dire ces choses? Et elle répond, toute troublée de ces paroles, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Ces paroles montrent la grandeur de son humilité. Elle s'estime un pur néant devant Dieu et donc la dernière des créatures. Elle ne comprend pas pourquoi l'ange lui dit ces paroles. Ensuite, l'ange lui révèle le message. Cette nouvelle, la plus importante que l'univers ait connue, le genre humain l'attendait depuis 4000 ans. C'est l'annonce du Messie attendu, du Sauveur du monde, qui vient réparer la faute originelle avec toutes ses conséquences. Marie écoute attentivement tout ce qui lui dit l'ange. Ses paroles ne l'étonnent pas, elles sont très claires pour elle, parce qu'elles ne font que résumer les principaux oracles de l'Ancien Testament qu'elle connaît parfaitement. Après avoir demandé les explications nécessaires, puisqu'elle a fait vœu de virginité, Marie va donner sa réponse. Le grand mystère qui vient de lui être dévoilé, dont elle avait attendu avec de grands désirs la réalisation, comme toutes les filles d'Israël, le grand mystère pour lequel elle n'avait cessé de prier continuellement au temple depuis l'âge de 3 ans, afin qu'une jeune fille en Israël obtienne cette grâce de devenir la mère du Sauveur. Jamais elle n'avait eu l'idée, un seul instant, que ce pouvait être elle. Un seul instant. Tellement elle était oublieuse d'elle-même. Mais voilà, l'ange lui dit ce que le bon Dieu a décidé. Donc, devant la volonté de Dieu, Marie s'incline et elle fait cette réponse, délicieux mélange de profonde humilité, de parfaite obéissance et de simplicité. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Dès cet instant, le mystère s'accomplit, Marie est mère de Dieu. Quelques jours après, elle se hâte chez sa cousine Élisabeth pour l'aider. Dès qu'elle l'a saluée, Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, proclame les merveilles qui se sont accomplies en Marie. « Vous êtes bénie entre les femmes, le fruit de votre sein est béni. Et d'où m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Vous êtes bienheureuse d'avoir cru, car ce qui vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Devant ces louanges, quelle est la réaction de Marie ? Va-t-elle diminuer la portée de ses paroles par une fausse humilité ? Non, elle les confirme en chantant son Magnificat. Oui, tout cela est vrai, mais elle en rapporte toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait ces grandes choses en elle. Elle y est pour rien. Elle laisse éclater sa joie en Dieu. Elle n'est rien d'autre que sa servante. Dans ces deux épisodes, on reconnaît les marques de l'humilité, le mépris de soi-même, la défiance de soi-même, la confiance en Dieu, totale, le recours à Dieu dans la prière, l'action de grâce et la louange, et la glorification en Dieu seul. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Puisque nous sommes des créatures, nous pouvons nous humilier comme Marie. Comme elle, nous dépendons de Dieu en tout, sur le plan naturel comme sur le plan surnaturel. Mais nous avons une raison supplémentaire de nous humilier. Nous avons péché. Deux possibilités se présentent pour nous. Soit nous n'avons jamais commis un seul péché mortel, c'est alors par la grâce de Dieu que nous avons été préservés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit cela. Elle était consciente qu'elle n'avait jamais commis un seul péché mortel, mais elle se disait « j'ai été préservée par la miséricorde de Dieu. Sinon, si je n'avais pas eu cette miséricorde, je serais tombée dans le péché mortel. » Soit nous avons commis des péchés mortels, c'est la miséricorde de Dieu qui nous a pardonnés. Dans les deux cas, c'est la miséricorde de Dieu qui nous a soit préservés, soit rétablis en grâce. Sans cette miséricorde, où serait notre place? En enfer. Nous avons donc toutes les raisons de nous humilier. Comprendre cela est déjà un grand pas de fait. Mais ce n'est pas encore l'humilité. L'humilité est une vertu. Pour l'acquérir, il faut en faire les actes. Soit des actes intérieurs, soit des actes extérieurs. Il faut les deux, parce que nous sommes corps et âme. Et l'humilité, les actes extérieurs ont un avantage. Ils permettent de vérifier que la vertu intérieure est bien réelle, et non une illusion subtile de notre orgueil. Le meilleur moyen de grandir en humilité, de vérifier si on est déjà un petit peu humble, c'est d'accepter les humiliations qui nous viennent des autres. Là, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se dire « oh, je suis humble », etc. Non, non, là, ça vient des autres, c'est l'heure de vérité. Et Saint Jean de la Croix a cette sentence qui nous permet de bien vérifier si vraiment nous sommes humbles. « Laissez-vous enseigner, laissez-vous commander. » Ah, est-ce que je me laisse enseigner? Est-ce que je me laisse commander? « Laissez-vous dominer. » Ah, plus dur. « Et mépriser. » Ah, encore plus dur. Si on fait cela, on est parfaitement humble. Cela est dur à la nature. Très dur. Alors comment parvenir? Comment y parvenir? Imitons Marie. Elle a encore grandi en humilité dès que le Verbe s'est incarné dans son sein. Elle a pu le contempler pendant 30 ans, voir ses exemples. Lui, le Créateur du ciel et de la terre, voilà, il fait son apprentissage de petit enfant, de petit bébé, etc. Quelle humilité! Ensuite, pendant sa passion sur la croix, quelle humilité il montre. Et la Sainte Vierge Marie, eh bien, ne fait qu'un avec lui. Tous ces actes d'humilité que notre Seigneur a fait, eh bien, elle les a fait comme si c'était les siens. Elle les a partagés. Elle les a vécus comme les siens propres. Si nous voulons acquérir l'humilité, dit Sainte Madeleine de Pazzi, il faut fixer notre regard sur le Verbe en croix. Alors, pendant ce carême, méditons le chemin de croix. Avec Marie, croisons le regard de Jésus portant sa croix. Regardons-le sur la croix, silencieux, pardonnant à ses ennemis qui se moquent de lui. Il nous dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Nous pouvons lire aussi la vie des saints. Leur vie est remplie d'exemples concrets d'actes d'humilité qui sont plus proches de nous. C'est peut-être plus facile à imiter. Prenons quelques traits tirés de la vie de la vénérable Louise du Saint-Esprit. Elle est née d'une noble famille de Toulouse en 1546. Elle vécut 86 ans. Mariée à 21 ans, elle vécut 30 ans dans le mariage, eut 15 enfants, 7 garçons, dont 2 prêtres, 8 filles, dont 6 devinrent religieuses. À la mort de son mari, elle passa 9 ans dans la viduité, puis 26 ans en religion. Donc, elle est un parfait modèle des mères de famille chrétienne et des religieuses. Prenons un trait de sa vie au début de son mariage. Elle avait un mari très aimant, grand professeur à l'université de Toulouse, monsieur de Costa. Par contre, elle dut supporter les injures et les reproches de sa belle-mère que son grand âge rendait acariâtre. Et elle avait beaucoup de mal, sa santé dépérissait. Alors son mari, l'ayant envoyée se reposer à la campagne, elle pria beaucoup dans la solitude et Dieu lui fit connaître les avantages qu'une âme a à tirer des souffrances. Elle pleura beaucoup ses lâchetés passées et revint à Toulouse, résolue de souffrir avec soumission la mauvaise humeur de sa belle-mère. Elle la servit tous les jours avec assiduité, l'habillant, la conduisant à la messe, la déshabillant, faisant sa toilette, etc. Et elle adoucit ses chagrins jusqu'à sa mort, bon, qui arriva peu de temps après. Ensuite, elle eut ses 15 enfants. Elle gouverna sa famille. Alors sa famille était grande puisqu'elle était d'une noble famille. Elle a eu 15 enfants. Elle avait des domestiques. Ils avaient des propriétés, donc avec des paysans qui dépendaient d'eux. Donc il fallait qu'elle s'occupe aussi des familles de paysans qui étaient sur ses domaines. Et donc elle veillait avec une grande maîtrise à toute cette maisonnée, à l'instruction chrétienne et à la pratique de toutes les vertus. Elle faisait preuve d'un dévouement admirable. Elle était de très bonne compagnie. Tout le monde recherchait sa compagnie. Elle se montra vraiment la femme forte de la Sainte Écriture. Prenons maintenant un trait de sa vie après la mort de son mari. 6 ans après la mort de son mari, elle décide d'entrer dans le tiers ordre de Saint-Dominique. N'oublions pas qu'elle est une noble dame. Elle va se dévouer sans compter aux œuvres de miséricorde. Elle va visiter les prisonniers, les malades. Elle va leur baiser les ulcères. Ensuite, la grâce fait son cheminement dans son âme. Elle décide de rentrer en religion. Elle se sent attirée par cette vie. À 59 ans, elle entre au monastère Sainte-Catherine de Sienne à Toulouse, donc les moniales dominicaines, dont sa fille est supérieure. Sa fille aînée, qui sera aussi une vénérable. Ce fut pour elle une grande épreuve que d'obéir à sa fille avec la candeur et la simplicité d'un enfant. Elle avait du mal, elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'être mère. Alors elle fut encouragée, elle eut un songe tout d'abord, où il y fut montré d'une manière symbolique comment il fallait qu'elle passe par-dessus ses difficultés pour parvenir à vivre en bonne religieuse. Et puis elle eut aussi une vision de Sainte Marie Madeleine, qui était sa sainte préférée, qui lui montra l'exemple de la soumission de Jésus à Marie et Joseph, ses créatures, et qui lui fit comprendre que plus on s'humilie ici-bas, plus on ressemble à Jésus. Alors, elle a été réconfortée par ses visions, et elle a été, depuis ce moment-là, zélée pour s'humilier dans toutes les occasions offertes par la vie religieuse. Et la Providence, pour augmenter ses mérites, permit qu'elle eût pour supérieure 3 de ses filles. La première, l'aînée, comme prieure, une autre comme sous-prieure, et puis elle a eu aussi une comme maîtresse des novices. Ses filles, qu'il aimait beaucoup, connaissant sa vertu et voulant faire d'elle une sainte, ne lui épargnaient rien. Elle la traitait vraiment surnaturellement. Prenons un petit exemple, mais ces exemples étaient courants, quotidiens. Un jour, ayant entendu crier au feu, notre vénérable Louise regarda par la fenêtre pour voir d'où venait l'incendie. La mère prieure passait à ce moment-là. sa fille, elle la réprimande sévèrement et lui ordonna d'aller se donner la discipline. Ce que la mère fit avec rapidité et s'exécuta aussitôt. Donc de ces humiliations, elle en eut beaucoup au chapitre. Elle avait beaucoup d'humiliations à montrer au chapitre devant ses sœurs, etc. Toutes ces humiliations ne l'empêchaient pas d'aimer beaucoup ses filles. Et elle avait peur que son amour maternel, naturel, ne se rallume et vienne corrompre son amour surnaturel. Alors qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle évitait d'aller servir ses filles comme supérieures, pour éviter à l'amour maternel de se réveiller trop naturellement. Elle fut pendant 25 ans très observante, un modèle d'observance, progressant en toutes les vertus. À l'instant de sa mort, alors qu'elle venait de recevoir les derniers sacrements, elle semblait dormir. Autour d'elle, les religieuses étaient là et parlaient avec son confesseur, s'entretenaient de ses éminentes vertus. Mais elle ne dormait pas, elle entendait. Finalement, elle se mit à parler à faible voix. « Mon père, ne croyez pas ce que leur charité leur fait dire. Je n'ai rien fait qui vaille. » Vous voyez ce bas sentiment qu'elle avait d'elle-même à l'heure de la mort. Quelle que soit notre condition de vie, mes frères, nous avons des occasions nombreuses de nous humilier. Que ce soit dans la vie familiale, plus tard, lorsque nous vieillissons, nous devenons dépendants de tout, de nos enfants ou même d'étrangers, pour les choses les plus ordinaires de la vie courante, la toilette, s'habiller, etc., manger. Eh bien, ce sont de grandes humiliations. Alors, tournons les regards de nos âmes sur Marie et Joseph, et Marie et Jésus. Implorons d'eux les grâces nécessaires pour les imiter. Elles ne nous manqueront pas, ces grâces. Alors, le Seigneur nous dégagera des pièges qui nous sont tendus par l'Esprit superbe pour nous faire tomber ou simplement végéter dans la médiocrité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.